On évoquera aussi cette taxe sur les livres d'occasion. À quoi bon taxer les livres au moment où l'on veut sortir nos ados des écrans? Je lui pose la question à 7h40.
Nous sommes le vendredi 26 avril 2024, 26-04-24. Très belle journée à vous tous qui nous écoutez, RTL. Il est 7h.
7h, 9h, RTL Matin, avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Et le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une ce matin, l'épilogue de l'affaire Kenji Girac.
Une tentative ou une simulation de suicide, ce sont les deux hypothèses du procureur qui annonce un probable classement sans suite. Le duel des Europes à distance, après le discours de la Sorbonne, Jordan Bardella répond à Emmanuel Macron. La note de la dette de la France va-t-elle se dégrader? Le verdict de deux agences attendu ce soir. Et puis Nikos Aliagas, Nana Mouskouri et Tony Estanguet à Athènes à 17h30 pour la passation de la flamme olympique.
Argent, politique et barbouzerie, l'histoire secrète du Paris Saint-Germain nous sera racontée par nos confrères Laurent Valdiguier et François Vignol. Leur enquête est publiée chez Robert Laffont, il sera 8h20.
RTL Matin.
Le scénario est donc clair ce matin et il contredit la version du tir accidentel. On sait désormais ce qui s'est passé lundi au petit matin dans la caravane de Kenji Girac. Le procureur a donné une conférence de presse hier que vous avez suivie, Philippe de Maria. Alors que sait-on du déroulé des faits ?
Alors le chanteur rentre en pleine nuit dans la caravane où dorment sa compagne Soraya et sa fille de 3 ans. Il a bu toute la journée, beaucoup, beaucoup trop, dira-t-il aux enquêteurs. C'était les vacances, je voulais me lâcher. Le déjeuner, le dîner, la soirée passée au casino ont été très arrosés. Il avoue même avoir consommé de la cocaïne. Il rentre, il fait du bruit, il réveille sa fille. Première dispute avec Soraya. Il ressort, prend sa voiture, rejoint des jeunes de sa famille, continue à boire et il rentre à nouveau dans sa caravane. Nouvelle dispute et là Soraya lui dit qu'il va devoir partir. Selon Kenji, c'est elle qui l'aurait menacé de le quitter. Elle se réfugie dans la chambre avec sa fille. Kenji s'énerve, il fouille les placards, retrouve son arme. Selon lui, il veut lui faire peur en actionnant la culasse. Il pointe le canon contre lui, il tire. Soraya le retrouve à genoux, gémissant, grièvement blessé. Elle appelle les secours.
Et on se pose la question, est-ce qu'il s'agit d'un suicide raté ou d'un simulacre de suicide ?
Selon Kenji, il a seulement voulu faire peur à sa compagne en menaçant de se suicider. La jeune femme dira aux enquêteurs qu'il souffre d'addiction à l'alcool et lors de précédentes crises, il lui a déjà dit qu'il allait se mettre une balle. Mais le chanteur a affirmé aux enquêteurs qu'il a simulé un suicide en omettant de vérifier le chargeur qu'il croyait vide. Pour le procureur Olivier Janson, c'est la version de Kenji tout en rappelant que le suicide est tabou dans la communauté des gens du voyage. Mais en tout cas, la tentative de suicide n'est pas pénalement répréhensible. Et on se dirige vers un classement sans suite.
Et alors l'arme, Philippe, on sait d'où elle venait ?
Cette arme, il ne l'a jamais achetée dans une brocante comme il l'a affirmé au début, mais à un homme passé au campement le 18 avril dernier. Le chanteur pratique le tir, notamment en Suisse, d'où est originaire sa compagne. Le Colt 45 n'est pas fiché, il n'a pas servi pour des faits répréhensibles.
Et ce récit de Philippe de Maria pour RTL est toujours, selon le procureur, Kenji Girac assume son geste tout en le regrettant fortement.
Emmanuel Macron lui a présenté sa vision de l'Europe hier pendant près de 2 heures à la Sorbonne.
Et il appelle à un sursaut face à une Europe en danger de mort. Au sujet de la défense, il suggère par exemple la création d'un bouclier antimissile inspiré du dôme de fer israélien. À un mois et demi des européennes, le match des Europes était donc lancé puisque dans la foulée, Jordan Bardella a présenté le programme du Rassemblement National pour le scrutin, Arthur.
Sur son pupitre, un slogan « Bâtir l'Europe du 21e siècle », signe que le RN est désormais loin du Frexit réclamé jusqu'en 2017. Jordan Bardella promet un nouvel élan pour l'Europe, lance-t-il une Europe des nations sur 3 piliers.
Une Europe qui protège, qui produit, qui respecte.
Les marqueurs du RN sont bien là. Contre l'écologie punitive de Bruxelles, Jordan Bardella prône une écologie praticable. Contre la mondialisation sans règles, il veut du protectionnisme. Contre le laxisme aux frontières, il met l'immigration au cœur de son programme.
Le temps de la naïveté doit également cesser. L'immigration massive, principal enjeu de ces élections européennes, est une menace existentielle pour notre continent.
Les classiques du RN donc, mais on a aussi entendu Jordan Bardella réclamer plus de coopération européenne sur l'intelligence artificielle, l'industrie et sur le plan militaire.
Si l'Europe de la défense ne peut pas être un renoncement à notre souveraineté militaire, il est parfaitement envisageable d'établir des coopérations militaires entre nations souveraines.
Après 20 minutes de discours, Jordan Bardella conclut même avec une tirade aux accents europhiles.
Ces élections européennes peuvent marquer un nouveau départ pour la France. France. Et un nouvel élan pour l'Europe dans la fidélité à son esprit originel.
Avant de filer sans répondre aux journalistes.
Arthur Bélier du service politique de RTL. Les États-Unis annoncent construire une jetée à Gaza, objectif faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire. Dans l'enclave, 60% des familles ne consomment qu'un seul repas par jour. Par ailleurs, des échanges de tirs ont de nouveau eu lieu cette nuit entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais.
RTL 7h04, le poids de la dette française va-t-il avoir raison de sa notation ?
Après l'annonce d'un déficit de 5,5% du PIB pour 2023, deux agences rendent ce soir leur avis sur la santé des finances du pays et sa capacité à rembourser ses dettes. Quel est le risque d'une dégradation de la note ? Faut-il s'en inquiéter ? RTL va prendre le temps de vous l'expliquer dans le journal de 8h. C'est du jamais vu depuis 1961. La production mondiale de vin a baissé de 10% l'an dernier. La faute, notamment, à des épisodes de sécheresse, de gel ou de pluie. La consommation, elle, est en recul de 3%.
Ce sera l'image de la soirée. Après 10 jours à parcourir la Grèce, la cérémonie de passation de la flamme olympique aura lieu tout à l'heure à 17h30.
À 91 jours désormais du coup d'envoi des Jeux de Paris, ce sera au stade panathénaïque d'Athènes. 4 porteurs vont se relayer, 2 grecs et 2 françaises, la championne olympique de danse sur glace Gabriela Papadakis et Béatrice S, l'ex-nageuse aux 20 titres paralympiques. Alexia Kefalas, vous êtes la correspondante de RTL à Athènes, où l'impatience grimpe d'heure en heure maintenant.
Oui, c'est l'événement et ces fans qui ont fait le déplacement pour la voir étaient nombreux, comme Auguste Lyonnais de 28 ans.
C'est un symbole, c'est les Jeux Olympiques de Paris, c'est la dernière fois peut-être que je vais l'avoir chanté, c'est 90 ans, c'est extraordinaire.
Même Nikos Aliagas, le maître de cérémonie, est saisi.
Je suis super ému d'être ici, évidemment, je suis touché parce que c'est la France et la Grèce qui se retrouvent.
Et Nana Mouskouri, sensible à cette effervescence, se confie en exclusivité à RTL.
Il y a autre chose qui est extraordinaire, c'est que la France est mon deuxième pays. Alors je suis là pour la Grèce, parce qu'elle donne la flamme, et la France qui la reçoit. Donc je suis en même temps pour les deux, et mon émotion, ma fierté, j'ai tellement de respect, et puis... Je suis très émue.
La cérémonie devrait durer une heure, puis la flamme olympique passera la nuit dans l'ambassade de France à Athènes.
Alexia Kefalas, correspondante de RTL en Grèce, et la flamme partira ensuite demain à bord du mythique trois-mâts, le Belém, direction Marseille pour une arrivée prévue le 8 mai. Marseille, où un feu d'artifice sera tiré ce soir à l'occasion de cette passation de la flamme.
Alors, lui a remporté 2 titres olympiques en tennis. Rafael Nadal s'impose sur ses terres pour son entrée en lice au tournoi de Madrid.
Après 3 mois de blessure, l'Espagnol de 38 ans a dominé le jeune américain Darwin Blanche, classé au-delà de la 1000e place mondiale. Victoire 6-1, 6-0. Alors, à un mois pile de Roland-Garros, cette question, Isabelle Langer, peut-on espérer y voir Nadal pour un dernier tour de piste ?
Évidemment qu'on a envie de le voir ici à Roland-Garros. Il est chez lui, il a gagné 14 fois, c'est son tournoi.
Amélie Mauresmo, la directrice de Roland-Garros, est d'ailleurs en contact permanent avec l'entourage de Rafael Nadal. Pour l'ancienne numéro 1 mondiale, l'Espagnol ne viendra qu'à une seule condition.
Je pense qu'il a envie d'être compétitif, en fait. Qu'il n'a pas envie de venir dans des conditions où ce ne serait pas satisfaisant pour lui sportivement. Mais je le comprends, c'est qu'il ne veut pas être l'ombre de lui-même d'une certaine façon, donc respectons ça.
Quant à savoir si le tournoi va lui rendre hommage, là encore, Amélie Mauresmo reste prudente.
Aujourd'hui, c'est très compliqué de prévoir ou pas quoi que ce soit. Pour avoir un vrai bel hommage à ce champion qui a gagné 14 fois ici, 22 grands chelems à ce jour, ça se prépare. On ne peut pas faire ça dans la précipitation, avec beaucoup d'incertitudes, etc. Et surtout, il faut qu'il soit partie prenante, je pense. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses.
14 titres pour Nadal à Roland-Garros.
Oui.
En tout cas, on espère l'y voir le mois prochain. Isabelle Langer, spécialiste tennis de RTL. Rafael Nadal qui affrontera demain Alex de Minaur au deuxième tour à Madrid. Le foot avec le début ce soir de la 31e journée de Ligue 1 à 4 journées de la fin du championnat. Montpellier peut quasiment assurer son maintien s'il prolonge sa série de 4 matchs sans défaite. Le club reçoit Nantes à 21h à la Mosson. Rencontre à suivre dans RTL Foot dès 20h. D'une flamme à d'autres, n'en déplaise à certains, elle sera très probablement l'une des reines de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Avant cela, Aya Nakamura a été reine des flammes hier soir. La cérémonie des trophées du rap a, comme l'an dernier, sacré la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde, artiste féminine de l'année. Et elle remporte aussi les prix de l'album pop et du rayonnement international. Venir mon tati, hey, baby, veux devenir mon tati.
Alors, va-t-elle chanter ou non pour les JO? Vous savez, on en a beaucoup parlé. On posera la question à la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui sera notre invitée à 7h40.
Et puis, la disparition à 63 ans de Laurent Canté, le réalisateur d'Entre les Murs, film qui avait remporté la Palme d'Or à Cannes en 2008 et qui traitait du quotidien d'un prof et de ses élèves dans un collège difficile. Il souffrait d'une maladie.
Pourtant, les cours sont lieu à Vincennes aujourd'hui.
Le départ est à 20h15. C'est en nocturne. Les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 10, le 3... L'As, le 9, le 11, le 8. Et puis l'outsider de RTL, c'est le 3.
Hortense Crépin nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h09.
Dans un instant sur RTL, l'affaire Kenji Girac et les étonnantes confidences du procureur. Alba Ventura revoilà le débat sur la GPA.
Et pas toujours en des termes respectueux, plutôt dans l'hystérie, voyez-vous.
A tout de suite.
Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr.
Pour tout savoir sur le reconditionnement des voitures d'occasion, avec Autosphère, restez à l'écoute d'RTL.
RTL. Pourquoi se dépêcher d'aller chez Castorama avant la fin de l'anniversaire Castorama? Parce que quand on a l'esprit Castor, on aime les salles de bain bien agencées, à prix bien réduit. Et justement, en ce moment, les meubles de salle de bain design et pratique de la collection Vague sont à moins 25%. Une vraie affaire d'anniversaire. Mais attention, les incroyables prix anniversaire Castorama, c'est bientôt fini. Alors on se dépêche, c'est seulement jusqu'au 6 mai. Eh oui, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Castorama, changer nous fait avancer. Voir conditions en magasin et sur castorama.fr.
La Côte d'Or, au cœur de la Bourgogne. C'est la première destination nature et patrimoine entre Paris, Lyon et Strasbourg. Des sites inscrits à l'UNESCO, des plus beaux villages de France, le parc national de forêt, le parc du Morvan, des itinéraires gourmands, dont la célèbre route des Grands Crus. Tout commence sur lacotedorjadore.com.
Jardiland célèbre son Jardiversaire. Jusqu'au 5 mai, c'est la fête en magasin et sur jardiland.com. Au programme, des offres exceptionnelles, des animations et surtout notre grand jeu anniversaire avec plus de 4,5 millions d'euros de cadeaux à gagner.
Jardiland, cultivez votre bien-être.
Conditions et listez les magasins participants sur jardiland.com.
RTL événement.
Et l'événement ce matin sur RTL, c'est donc cette conférence de presse du procureur de la République de Mont-de-Marsan. C'était hier. Les managers de Kenji Girac regrettent ce matin que le magistrat ait cru bon, je cite, de divulguer l'intimité de la vie privée et familiale de Kenji Girac. Bonjour Maxime Lévy.
Bonjour.
Deux hypothèses. Soit le chanteur a tenté de se suicider, soit il a simulé un suicide. C'est ce que dit le procureur, et qui a très longuement évoqué le contexte de cette soirée. Et c'est ce qui a surpris. Alcool, drogue, idées noires. C'est une part d'ombre que personne n'avait évoquée jusqu'ici.
Oui, c'est ce qui ressort en tout cas de l'audition de sa compagne Soraya Miranda avec les enquêteurs. Elle explique qu'il avait par le passé partagé ses pensées noires, ses idées suicidaires. Selon ses déclarations, il lui avait déjà dit qu'il voulait, je cite, « se mettre une balle dans la tête ou bien s'ouvrir la gorge ». Un portrait d'écorché vif, bien loin effectivement de celui plus jovial connu du grand public.
Et Maxime, c'est aussi sa compagne qui évoque devant les enquêteurs son addiction à la
Oui, une addiction récente depuis quelques temps, un alcool de fête qui s'est progressivement transformé en alcoolisme et que sa compagne décrit comme générateur de très grandes tensions dans leur couple. Je vous laisse écouter Olivier Janson, le procureur de Mont-de-Marsan.
Elle décrit Kenji comme étant l'objet de cuites de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues, pouvant durer jusqu'à 48 heures, période dans lesquelles il faisait, dit-elle, n'importe quoi, et des situations qui étaient de plus en plus dures à gérer en ce qui la concernait. Elle précise néanmoins, je souhaite le faire pour éviter toute ambiguïté, que si cette situation générait des disputes, Kenji n'avait jamais été violent, ni vis-à-vis d'elle, ni vis-à-vis de sa fille, mais qu'il pouvait casser des objets lorsqu'il était dans cet état.
De l'alcool donc, mais aussi des stupéfiants. On sait qu'il a pris de la cocaïne la nuit du coup de feu.
Oui, et là aussi, sa compagne décrit en audition un usage régulier.
Elle a été interrogée sur d'éventuelles consommations de stupéfiants de la part de Kenji Girac. Elle évoque effectivement une consommation régulière de cocaïne à raison d'une à deux fois par semaine.
Autant de travers qui mettaient son couple à rude épreuve, alcool, cocaïne et puis effectivement ses idées noires. C'est dans ce contexte, c'est ça donc le contexte du tir qui l'a grièvement blessé lundi dernier.
Enfin, la compagne de Kenji Girac évoque sa difficile intégration au sein de cette famille.
Oui, elle va revenir aux origines de leur relation. Ils se rencontrent en 2014. 2014 dans un restaurant. Depuis, ils ne se sont jamais quittés. C'est seulement en 2020 qu'elle décide d'adopter son mode de vie, de le suivre lors de ses voyages en caravane avec la communauté gitane. Mais tout n'est pas rose. N'étant pas issue des gens du voyage, elle décrit une intégration difficile. Elle raconte qu'il a fallu attendre la naissance de leur fille en 2021 pour faire sa place petit à petit. Elle souhaite une vie plus stable. Hors de question que son enfant loupe un jour de maternelle l'an prochain. 2024 sonne donc pour elle comme la dernière année de voyage. Tout le contraire d'une vie itinérante promue par les proches du chanteur.
Merci beaucoup Maxime Lévy du service police-justice de RTL.
RTL, il est 7h14.
RTL Matin.
Bonjour Alba Venture.
Bonjour à tous.
Le débat sur la GPA, la gestation pour autrui, a ressurgi cette semaine. Hier, le Parlement européen a pointé l'exploitation de la GPA. Avant cela, c'est Marion Maréchal, la tête de liste Reconquête, qui s'en était pris vertement aux couples qui y ont recours. Alba, on est bien d'accord, la GPA reste interdite en France. Alors pourquoi ce débat réapparaît-il ?
Ah ben ça, c'est le génie français. Yves, on adore les débats, mais on débat mal dans notre pays. On est immédiatement dans l'invective, dans l'hystérie. Il n'y a qu'à voir la réaction, effectivement, de Marion Maréchal devant l'annonce de la naissance des jumeaux du créateur de mode Simon-Pierre Jacquemus. Il est homosexuel et Marion Maréchal a d'abord fait un tweet pour demander où est la maman. Et puis elle a qualifié la pratique de la GPA de, je la cite, « monstrueuse et honteuse ». Elle a parfaitement le droit d'être contre, comme le président de la République. D'ailleurs, il s'est toujours lui aussi opposé à la GPA. On n'est pas obligé de le dire comme ça. Non. Parce que quand elle dit monstrueux, ce n'est pas que la GPA qu'elle vise, ce sont les homosexuels.
Bien sûr, mais Alba, le Parlement européen a reconnu hier l'exploitation de la GPA dans la traite des êtres humains. Ça peut surprendre ?
Alors, ça peut surprendre si on ne lit pas bien l'intitulé de la directive. J'ai vu passer, Yves, de nombreuses réactions de joie, quasiment pour dire « ça y est, l'Europe reconnaît que la GPA s'inscrit dans le trafic d'êtres humains ». Bonjour l'interprétation, bonjour les dérives. En fait, cette directive, elle n'est pas là pour parler du principe en lui-même de la gestation pour autrui. Elle est là pour protéger les femmes qui seraient forcées à être des mères porteuses. C'est le fait d'exploiter les femmes. Et ça, oui, ça s'inscrit dans la traite des êtres humains, au même titre que les mariages forcés, que la prostitution ou que l'esclavage. Attention, je ne suis pas du tout en train de légitimer la GPA, pas du tout. Je dis simplement que c'est un débat qui est compliqué, qui interroge l'éthique, l'intime, la morale, la religion. Je suis convaincu que chez les homosexuels qui veulent des enfants, ce n'est pas un caprice. Et en même temps, je trouve qu'il y a aussi une injustice entre ceux qui peuvent financièrement faire cette démarche et ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent. Mais je crois qu'on peut parler de tout ça plus sereinement, d'autant qu'on le répète, cela reste interdit en France et la légalisation n'est pas du tout à l'ordre du jour.
La société est toujours plus en avance que le législateur, non ?
Oui, mais alors là, bon, les clivages sont plus forts quand même que pour le mariage pour tous ou que pour la PMA pour toutes. Vous savez, même à gauche, qu'on dit plus progressiste, il y a des antagonismes. Chez les féministes, notamment, il y a des féministes qui sont pour la GPA, et puis des féministes qui rejettent la marchandisation du corps de la femme, comme elles disent. Il y en a qui plaident pour une GPA éthique. Alors, GPA éthique, ça veut dire que les parents et la mère porteuse sont reconnus de la même manière. Et puis, il y en a d'autres qui trouvent que de toute façon, insupportable la séparation de l'enfant à sa mère biologique. Ces débats existent partout en Europe. Il y a des pays qui l'autorisent, comme le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas. C'est très encadré. La Roumanie, elle l'autorise même la rémunération. Il y a des pays où il n'y a ni autorisation ni interdiction. Ça, c'est l'Irlande, la Slovaquie ou la Pologne, et donc c'est toléré. Donc vous voyez, il y a des tas de cas de figure dans notre continent. Simplement, je dis, on n'est pas obligé d'être pour ou contre de manière agressive et encore moins obligé de stigmatiser les homos.
Passionnant et troublant. Merci beaucoup Alba Ventura et donc à lundi matin.
À lundi.
Il est 7h17. Dans un tout petit instant sur RTL, Laurent Deutsch nous emmène en Espagne. Vous connaissez tous le tableau Guernica. Eh bien, tout a commencé un 26 avril. À tout de suite.
Yves Calvi, Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h.
Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent. Et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers. Mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, protégez vos ados en collaboration avec MSD.
RTL. Ce soir dès 20h dans RTL Foot, suivez le match en direct et en intégralité. Tous les buts, toutes les réactions, la Ligue 1, c'est ce soir sur RTL avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Ah, le patron, ils les ont à 1,99€.
Les avocats?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, la barquette de deux avocats est à 1,99€.
Moins de 1€ l'avocat pour le lot de deux. Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
C'est la vocation de Lidl, non?
Avec des avocats à ces prix-là, il n'y a plus de justesse, ouais.
Et on est juste mal.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, diverses origines selon arrivage en supermarché. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Ce vendredi, jackpot Euromillions de près de 150 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
RTL, entrée dans l'histoire.
Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour à tous les deux.
Nous sommes donc le 26 avril et cher Laurent, c'est à cette date qu'a eu lieu en 1937 un massacre dans une petite ville d'Espagne restée célèbre grâce à un tableau peint par Picasso. Il s'agit du fameux bombardement de Guernica.
Oui, en ce 26 avril 1937, c'est jour de marché à Guernica. Les rues sont bondées, mais à 16h30, une alarme retentit. La population court se réfugier dans les caves des maisons quand soudain, une trentaine d'avions larguent un tapis de bombes sur la ville. D'autres appareils surgissent alors et à basse altitude, ils pulvérisent à la mitrailleuse la population qui tente de s'enfuir. C'est l'apocalypse et le massacre dure 3 heures.
Et c'est aussi la première fois dans l'histoire qu'un bombardement massif est dirigé sciemment contre des civils.
Et tout ça contre une ville sans défense. Guernica est réduite en cendres et le bilan est terrible. 2000 morts et 1000 blessés.
Le bombardement de Guernica a lieu donc en pleine guerre d'Espagne. Le conflit oppose depuis plusieurs mois le gouvernement de gauche du Front Populaire et le général Franco, soutenu par les conservateurs, les nationalistes et l'Église.
Franco, qui a pris le pouvoir avec un coup d'État, et depuis, il pourchasse les républicains. L'un de leurs fiefs, c'est le Pays Basque. Et Guernica, l'ancienne capitale du Pays Basque espagnol, est devenue une cible. La ville n'avait pourtant aucun intérêt stratégique et elle n'abritait aucune installation militaire.
Mais en réalité, Guernica n'a pas été bombardée. Par Franco, qui du coup accusera les républicains d'avoir eux-mêmes attaqué la ville.
Oui, une jolie fake news, car en fait, le coupable c'était bien lui, ou plutôt l'aviation allemande, qui depuis le début de la guerre d'Espagne était l'allié militaire de Franco.
Bombarder Guernica, c'était une idée des nazis, qui voulaient tester leur puissance militaire, la ville basque a servi en fait de terrain d'essai.
Et c'est pour ça qu'on peut dire que le massacre de Guernica était un peu la répétition générale de ce qui allait se passer à plus grande échelle 2 ans plus tard avec le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale.
En attendant, la tragédie de Guernica va être très largement médiatisé, les photos du drame sont en une des journaux du monde entier.
Oui, en France, les quotidiens de gauche appellent le gouvernement à intervenir et à évacuer les survivants du bombardement. Et c'est en lisant la presse que le peintre Picasso apprend l'événement. Et même s'il vit en France depuis des années, Picasso, qui n'a pas oublié ses origines espagnoles, est bouleversé par ce qui s'est passé à Guernica.
C'est là que le peintre décide de réaliser un immense tableau en noir et blanc qui s'appelle donc très simplement Guernica.
L'œuvre symbolise l'horreur de la guerre. Les humains et les animaux sont piétinés, les corps disloqués, exposés en tête de gondole à l'exposition internationale de Paris quelques semaines seulement après le massacre, Guernica devient l'un des tableaux les plus célèbres de la planète.
Et 60 ans après ce bombardement, en 1997, l'Allemagne présentera officiellement ses excuses à l'Espagne et reconnaît pour la première fois l'implication du pays dans ce massacre. Merci beaucoup Laurent, on vous retrouve comme chaque samedi demain à 13h30. Vous nous parlerez de qui?
On va parler d'un homme des Lumières, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, philosophe, aventurier, libertin et même auteur dramatique par amusement, écrivait-il aux comédiens de son mariage de Figaro ou de son barbier de Séville.
Il est 7h22 sur RTL. Dans un peu plus de 5 minutes, le journal. Et c'est ce soir qu'on saura si la note de la France est ou non dégradée. Hein. 2 agences rendent leurs recommandations. La France, elle récupère la flamme olympique à Athènes. Ce sera aujourd'hui. Flamme qui partira ensuite à bord du Belém. Direction Marseille, où elle doit arriver le 8 mai. Je vous le rappelle, à 7h40 ce matin, c'est Rachida Dati, la ministre de la Culture, qui est notre invitée. On va parler notamment de cette taxe sur les livres d'occasion qui a fait débat. À quoi peut-elle ressembler? Est-ce que c'est bien normal de taxer les livres d'occasion quand on veut que nos ados lâchent un peu leurs écrans? Je lui poserai la question. Côté météo, Louis Baudin, j'ai pris mon ciré ce matin. J'ai bien fait.
Ouais, vous avez bien fait. C'est vrai, il faut pas s'y avoir quelques éclaircies qu'on a ici ou là. La pluie n'est jamais très loin.
Il voit bien son ciré, elle a raison.
Oui.
Tous les matins, les meilleurs moments de vos grosses têtes avant de les retrouver de 15h30 à 18h. Et quoi de mieux qu'un bon concours de fake news, bien entendu, pour terminer la semaine.
Christophe Beaugrand. Duralex en redressement judiciaire. Le PDG belge a déclaré
Avec le recul, faire des verres incassables, c'était vraiment une connerie, puisqu'on n'en rachète jamais.
Valérie Mérès.
Emploi fictif. La cour d'appel a confirmé hier la culpabilité de François Fillon. Non, mais je vais pas Pénélope Fillon a réagi au verdict en déclarant « Je ne comprends pas, pourtant je n'ai rien fait
!» Olivier Bellamy.
Alors, règlement de compte. N'ayant pas apprécié comment il s'était parlé tout seul, Kenji Girac a voulu se faire justice lui-même.
Florian Gazan.
2 millions de bouteilles de Perrier détruites après la découverte de matières fécales. Le type qui a pété dans l'eau pour faire les bulles avait une gastro, il court toujours.
C'est dégueulasse.
Et on les retrouve dès 15h30, nos grosses têtes, Laurent Ruquier et ses sociétaires qui seront ce soir à Montluçon, dans l'Allier. Émission exceptionnelle enregistrée à 19h au Musée des Musiques Populaires. À cette occasion, RTL vous offre une super valise, un 15 000 euros cash.
Non, 30 000.
Non, 15 000, je tiens.
Non, 30 000.
15 000, le principe
non,
est...
Non, 30 000.
C'est pas possible, après on va se faire gueuler. Le principe est simple, parce qu'ils attendront 30 000. Si Laurent Ruquier vous appelle et si vous décrochez, bien sûr, vous remportez 15 000 euros cash. Et pour tenter de remporter cette somme tout à fait exceptionnelle, et bien vous envoyez le SMS avec le mot valise au 74 900. À vos téléphones, vous avez jusqu'à demain.
RTL Matin.
Crois-moi, tout file entre les doigts.
7h, 9h.
La nuit, le jour n'existe pas.
Yves Calvi, Amandine Bego.
S'il te plaît, crois-moi.
Ça s'est passé sur RTL.
Christelle, êtes-vous surendettée ?
Oui, j'ai 47 000 euros de dette. Je vais être expulsée de ma maison. J'attends la décision du juge pour savoir quand.
Lucien, bonjour, mon cher Lucien.
Bonjour. Le cas de Christelle ne peut qu'émouvoir et je me proposais tout simplement de l'aider en reprenant sa dette sur sa maison.
C'est formidable d'entendre ça. J'imagine qu'elle est émue, Christelle.
Je ne sais pas quoi dire.
Merveilleux.
Parce que je suis très, très émue.
Merci à tous pour votre générosité.
Vous allez vous en sortir, Christelle. Croyez-en, la solidarité d'RTL.
Et oui, c'est ça, le vivre ensemble sur RTL.
Oh non, Léo, mais t'as encore inondé la salle de bain. Tu peux pas faire attention.
Bah oui, mais avec ce vieux rideau de douche, on peut pas faire autrement.
Bah, on va quand même pas installer une cabine de douche.
Ah bah si, pourquoi pas.
Depuis plus de 30 ans, Brico Dépôt s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comme avec la cabine de douche Square 80 par 80 cm, très tendance en coloris noir et gris à 199 euros. C'est ça, un prix dépôt. Brico Dépôt. Voyez plus grand avec nos prix dépôt. Depuis ce matin 7h en quantité limitée. Également disponible en drive sur bricodépôt.fr.
Il y a une Opel pour chaque. Chaque. Et chaque. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr. RTL Matin.
Pour profiter de l'été, Batiman, spécialiste de la protection solaire, installe chez vous store, pergola, brise-soleil, sur mesure et motorisé.
Louis Badin, notre météo, expliquez-nous tout parce que on va pas faire croire à nos auditeurs qu'on va avoir un joli week-end.
Non, c'est ça, exactement, hein, autant l'annoncer tout de suite. Et déjà aujourd'hui, hein, d'ailleurs, ça va être nuageux, pluvieux quasiment partout. Alors c'est vrai, et puis période d'accalmie, heureusement, il pleut pas toute la journée. Mais là, il y a des pluies dans le sud-ouest, il y en a près de l'Atlantique, il y en a dans le nord. Il y en a pas en Île-de-France, il y en a pas dans la vallée de la Loire, mais il y en a près de la Méditerranée, en région Rhône-Alpes, dans le nord-est. Voilà, ça donne le ton de la journée, ça va être comme ça, ça va alterner, passage nuageux, éclaircies, plus de nuages que d'éclaircies. Hein, parfois accompagné d'orages, pas encore beaucoup de vent, ça a commencé à souffler un petit peu quand même près de la Méditerranée, de la neige en montagne évidemment, mais un peu plus haut quand même parce que les températures vont remonter à partir de 1700-1800 mètres. Il y en aura un peu sur les Pyrénées, sur les Alpes encore. Et puis côté température, alors ça c'est la bonne nouvelle pour nos agriculteurs, il n'y a pas de gelée hein, ce matin. On n'en est pas très loin en Champagne quand même, hein. Il y a peut-être quelques vignes qui ont été surveillées de ce côté-là. Et puis cet après-midi, bah, ça y est, la montée débute, 12 à 16 degrés dans la moitié nord, c'est pas encore de saison et 16 à 17 degrés, pas plus dans la moitié sud.
Alors ce temps instable qu'on subit depuis maintenant un bon bout de temps,
ouais.
Il est installé, ça continue ?
Bah oui, il est installé, hein, je vous en parlais hier. Tant que l'anticyclone des Açores ne veut pas revenir, eh bien on reste dans ce temps perturbé avec alternance de nuages éclaircis. Ça va être le cas pour le week-end. Alors samedi, c'est plutôt dans l'ouest que nous allons avoir des pluies, parfois accompagnées d'orages avec du vent cette fois-ci. 70-80 km/h près de l'Atlantique, du vent également près de la Méditerranée. Dans l'est, on aura temporairement un temps un peu plus sec, et puis dimanche viendra votre tour. C'est dans l'est où on trouvera de l'instabilité, des averses, beaucoup de pluie près de la Méditerranée, et puis des températures là en revanche de saison, autour de 17-18 degrés dans la moitié nord et un peu plus de 20 degrés dans le sud. Voilà, c'est toujours ça de prix.
Qu'est-ce qu'on fait pour déclencher l'anticyclone des Açores?
Ah, écoutez, on fait des prières, on fait tout ce que l'on veut.
Des cierges,
et puis espérons qu'en milieu de semaine prochaine, allez, ça bouge un peu et qu'on ait un temps un peu plus calme, mais rien encore de fait.
Eh ben,
c'est bon.
Ça me laisse sans voix.
Je suis désolé.
Bon, ça, on est bien d'accord. RTL, il est 7h30.
Amandine Bégaud.
RTL Matin jusqu'à 9h.
Et le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. C'est un tollé en Italie. La chaîne de télé publique, la RAI, accuse la leader d'extrême droite, Giorgia Meloni, d'avoir censuré le texte d'un écrivain de gauche, auteur connu pour ses romans sur Mussolini. Lecture annulée donc, mais dénoncée par la présentatrice de l'émission en question.
Era previsto un monologo sul 25 aprile di Antonio Scurati, monologo che invece non ci sarà.
Serena Bordone, présentatrice de la RAI qui brave l'interdiction et qui lit tout de même ce texte en direct d'Antonio Scurati. Il avait pour but de souligner les liens toujours existants, selon lui, entre le fascisme et l'actuel gouvernement italien, Olivier Bonnel.
Dans le texte qu'il devait lire à l'antenne, Antonio Scurati accusait le parti de Giorgia Meloni de vouloir réécrire l'histoire en gommant son héritage fasciste. La direction de la RAI a décidé seule d'annuler sa venue, une mesure de trop pour les employés du service public. Daniele Macheda, secrétaire général de Lucig RAI, le syndicat des journalistes de la RAI.
Nous avons décidé de faire grève le 6 mai pour dénoncer un système de contrôle intolérable. Nous protestons car non seulement les dirigeants de la RAI ne défendent pas notre travail, mais en plus, ils censurent l'autonomie des journalistes.
Pour beaucoup, l'audiovisuel public italien est sur une mauvaise pente. Il y a quelques jours, le premier ministre albanais, un proche de Giorgia Meloni, avait appelé le directeur des programmes de la RAI pour se plaindre d'un reportage qui lui déplaisait sur sa politique migratoire. Un autre épisode qui a choqué. La RAI n'est plus un service public, a dénoncé Elie Schlein, la chef de l'opposition, mais est en train d'être transformée en mégaphone pour le gouvernement.
Olivier Bonnel, correspondant de RTL à Rome, l'Italie qui commémorait hier la libération du pays de l'occupant nazi en 1945.
Notre Europe est mortelle, le constat alarmiste d'Emmanuel Macron hier dans son discours à la Sorbonne.
À un mois et demi des élections européennes, la liste Renaissance est à la traîne. 16% des intentions de vote contre 31% pour le Rassemblement National selon notre dernier baromètre, Harris Interactive Toluna pour RTL. Avec un déficit public qui s'est envolé à 5,5% du PIB en 2023. Tous les yeux sont tournés vers les agences Moody's et Fitch qui noteront ce soir la dette de la France, indicateur essentiel de la santé des finances du pays pour les investisseurs et les banques. À l'étranger, des bombardements à Rafah au sud de la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien juge nécessaire de préparer une offensive terrestre sur cette ville, hôte d'1,5 million de réfugiés. Les ONG redoutent un bain de sang. Une délégation égyptienne est attendue aujourd'hui en Israël pour tenter de négocier une trêve.
RTL 7h30. De un simulacre de suicide sur fond d'addiction. Kenji Girac est revenu donc sur ses déclarations.
Après sa blessure par balle au thorax dans sa caravane à Biscarrosse dans les Landes, le chanteur dit désormais s'être tiré dessus volontairement pour empêcher sa femme de le quitter. Kenji Girac, très alcoolisé, est testé positif à la cocaïne d'après le procureur de Mont-de-Marsan. Des révélations qui ont provoqué une onde de choc parmi ses fans au printemps de Bourges, Steven Bellery.
Acte d'amour désespéré, coup de folie, ces mamans aimeraient rassurer leurs enfants.
Leur dire si un jour on pourra aller le revoir en concert.
Leurs filles suivent le feuilleton.
S'il a essayé de chuter, c'est pas de sa faute.
C'est sûrement un accident, donc c'est pas forcément lui qui l'a voulu.
Enfin, je sais pas s'il serait capable de rechanter un jour.
Il aurait pu y rester vraiment, genre pas revenir à la vie, donc à continuer à l'écouter.
Après la conférence du procureur, certaines familles sont sidérées.
Ça a choqué, oui, tout à fait.
On s'attend pas à ça d'une star en fait.
L'image du chanteur est surtout surtout écorné chez les jeunes adultes qui ont grandi avec Kenji.
Je pensais que c'était un mec clean, quoi.
C'est bizarre parce qu'en 5ème, je dansais sur cette chanson et là, les news que je vois passer sur lui, c'est qu'il a été blessé à l'arme à feu.
J'ai ça le rappelé sa mort. Non, mais un cocaïnomane, il s'est fait une tentative de suicide, c'est triste, hein. Mais merde, quoi. Par rapport à son image, c'est clair qu'elle va en prendre un coup, hein.
D'anciens fans qui espèrent une renaissance.
Reportage signé Steven Bellery pour RTL. L'enquête devra être classée sans suite puisque rien n'est répréhensible pénalement.
Vous nous donnez des nouvelles du Moulin Rouge après l'effondrement des ailes du club parisien hier.
Ces grandes ailes en aluminium qui devraient être réparées d'ici les JO cet été, mais la cause reste encore floue. D'après le directeur de l'établissement, invité de RTL, bonsoir.
C'est a priori pas les ailes qui se sont abîmées puisque le morceau est tombé d'un seul et même bloc. Donc on pense plutôt à l'axe qui supporte l'hélice elle-même.
Jean-Victor Clerico dans RTL, bonsoir. Il exclut en revanche tout acte malveillant. Tout un symbole, la cérémonie de passation de la flamme olympique de la Grèce à la France aura lieu ce soir à 17h30 à Athènes en présence de Nana Mouskouri, Nikos Aliagas, Tony Estanguet, la flamme qui embarquera demain matin sur le 3-mâts Bellem à destination de Marseille, arrivée prévue le 8 mai prochain dans la cité phocéenne.
Et puis Aya Nakamura, sacrée artiste féminine de l'année, aux flammes sont les trophées du rap.
La franco-malienne de 28 ans récompensée pour la deuxième année consécutive sur la scène du Théâtre du Châtelet à Paris. Voilà ses remerciements d'hier.
Ça n'a pas été facile pour moi, mais bon, je pense que ce trophée, cette victoire-là, c'est pour toutes les Renois, pour toutes les filles qui me regardent. Mais bien sûr, on vient de loin. Merci à vous aussi, tout le public, malgré les polémiques, les critiques, etc. Voilà, merci à vous.
Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde. Elle avait remporté le prix équivalent aux Victoires de la Musique en février. Chez les garçons, notez que c'est le rappeur Gazo qui a remporté la flamme.
Et c'est Aude Vernuccio qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Il est 7h35 maintenant et on vous retrouve à 8h30, Aude.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. François Langlais, comment allez-vous?
Mais fort bien, et vous?
Fort bien. Notre président Macron veut révolutionner l'Europe, alors?
Oui, et on voit des petites pousses vertes dans ce discours d'hier qui préfigure une Europe complètement différente de celle des années 80.
Vos explications sur ce bouleversement dans un instant.
7h-9h, RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi.
C'est si bon.
Limousine.
À l'aubergine.
À la bénédictine.
À la poitevine.
À la girondine.
En mousseline.
Chez Micheline.
Aux mandarines.
Façon Justine.
En gélatine.
À la cantine.
En tartine.
En tagine.
En verrine.
So bling bling.
En smoking.
En jogging.
Chez la voisine.
De la grande cuisine.
Chez nous le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches. Oui, oui.
Grand frais.
Ouais, Francky, bon, je vais pas pouvoir venir te chercher à la gare, hein. Là, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont une burrata ultra crémeuse, parfait pour ma salade de tomates. Donc, attends-moi un peu, t'inquiète, j'en ai pour 4 heures max.
Chez grand frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à samedi, la burrata dépouille de 150 grammes est à seulement 2,49€. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais!
Le meilleur marché.
Soit 16,60€ le kilo, pourcentage de matière grasse précisé sur le lieu de vente, au lait de vache, élaboré en Italie. Pour votre santé, bougez plus.
Au printemps, vous et votre trottinette électrique, vous êtes inséparables. Vous avez même hâte d'être lundi pour aller au boulot avec.
C'est parti.
Mais on est dimanche, là.
Pas grave, j'y vais quand même.
Pas étonnant, avec l'autonomie jusqu'à 55 km de la trottinette qu'on a sélectionnée chez Decathlon. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine, la trottinette électrique Ninebot F2+, est à 499€ au lieu de 599, soit 100€ de réduction. Decathlon, élue meilleure chaîne de magasins de sport de l'année.
À tous les enfants qui ont découvert chez le poissonnier que non, les poissons ne sont pas carrés. À ceux qui posent la question, pourquoi la glace ne fond pas sur les étals? Et à ceux qui se demandent pourquoi on dit moche comme un thon. Mais c'est pas moche un thon. Enfin, pas plus qu'un autre, quoi. Quand on voit la tête de la lotte... Jusqu'à samedi, Intermarché propose la longe de thon saumurée à seulement 13,79€ le kilo. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Transformé en France. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés.
RTL Matin.
Il est 7h37, Langlais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Emmanuel Macron a donc fait son discours sur l'Europe et vous y voyez un retournement, mais alors complet par rapport à l'Europe d'avant.
C'est vrai. C'est vrai, ce discours marque trois révolutions qui signent la transformation du projet européen pour s'adapter aux bouleversements géopolitiques qu'on connaît. Les priorités ont changé et le propos programmatique, du président en témoigne, même si, évidemment, le degré de conscience et le degré de volonté d'action n'est pas le même dans toutes les capitales. L'Europe qui s'élabore n'a plus rien à voir avec celle qui avait été lancée dans les années 80.
Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui change exactement, François ?
Pendant 40 ans, on s'est attelé à construire le marché unique, libéral, avec l'élimination des frontières et l'intensification de la politique de concurrence. Inversion complète aujourd'hui. Politique industrielle et aide d'État qui ont remplacé la politique de concurrence. Et Macron encourage cette évolution dans le but de renforcer les secteurs de pointe comme l'intelligence artificielle ou les technologies de la transition énergétique. Bien sûr, l'industrie de la défense aussi. Plus question de libéralisme.
Alors, ce soutien à l'industrie, c'est une idée française ? Les autres n'en veulent pas ?
C'est vrai. C'est vrai que jusqu'ici, tous les présidents français l'ont défendu. En vain. Mais cette fois-ci, le vent tourne. D'abord à cause du fait que le poids de l'Europe dans le monde décline, que nos concurrents étrangers nous ont rattrapés, même dépassés, que l'Amérique, toute amie qu'elle est, elle ne nous ménage pas avec ses gigantesques programmes de soutien aux entreprises. C'est pas l'économie de guerre, c'est plutôt la guerre économique. Et il faut se défendre.
Alors, la deuxième révolution.
Elle découle de la précédente. L'Europe libérale du marché unique s'était construite sur un axiome, la suppression des frontières. Frontières nationales, honnies à cause de la guerre, frontières extérieures de l'Union, avec l'ouverture du continent au vent du commerce avec le monde. C'était l'esprit de l'époque. Machine arrière toute aujourd'hui. Le président exalte la protection des frontières contre l'immigration incontrôlée. Bon, on attend quand même des actes. Il durcit le ton vis-à-vis des autres grands blocs dans les rapports commerciaux et il évoque même au plan économique une préférence européenne pour le secteur de la défense et celui du spatial.
Qu'est-ce que ça signifierait ?
C'est l'idée qu'on doit pouvoir favoriser ou au contraire discriminer un produit en fonction de son origine.
Oui.
Pour privilégier évidemment la production européenne. Il y a 20-30 ans, cette idée était hérétique en Europe. C'était jugé passéiste, protectionniste, dangereux, alors que les États-Unis, la Chine, le Japon le font depuis toujours.
Absolument. Alors on en vient à la troisième révolution.
C'est la plus contestable. Il s'agirait de développer les capacités d'emprunt de l'Europe, en refaisant le coût du plan de relance de l'après-Covid, cette fois-ci pour équiper la défense. Demain pour la transition écologique, après-demain pour le reprisage des chaussettes.
Oula, il y a des impôts.
Avec en contrepartie de nouveaux impôts européens, ceux-là, dont le produit serait perçu par l'Europe. Si je résume, c'est dépenser, taxer, s'endetter. Trois spécialités françaises, trois spécialités dans lesquelles notre président s'est illustré.
Absolument.
Maintenant que l'État français ne peut plus guère dépenser, puisqu'il a utilisé toutes ses marges de manœuvre, il se tourne vers Bruxelles.
Alors dites-nous, est-ce que tout ça a une chance de se faire ?
Oui. L'esprit des temps a quand même changé, à cause des nouveaux périls. L'Europe change. Alors le problème, c'est qu'on est 27 et que le monde change souvent plus vite que l'Europe.
Merci beaucoup François Langlais, il est 7h41.
Et dans un tout petit instant sur RTL, la ministre de la Culture. Bonjour Rachida Dati.
Bonjour.
Et bienvenue sur RTL. On va bien sûr revenir sur cette Europe de la culture qu'a défendue hier longuement Emmanuel Macron, cette possible taxe aussi sur les livres d'occasion. Un petit mot d'abord sur le triomphe d'Aya Nakamura hier soir aux Victoires du Rap. Elle a décroché trois récompenses, dont celle de l'artiste féminine de l'année. Est-ce que vous nous le confirmez ce matin ? Elle chantera bien au JO ?
Moi, c'est pas moi qui prends la décision et je ne suis pas dans le processus de décision. Mais en tout cas, je la félicite pour son succès d'hier et ça félicite et ça couronne aussi un talent. Ça couronne aussi du travail parce que je pense que le talent est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Moi, je pense que le travail derrière que fournit cet artiste est immense. Donc,
et elle a sa place potentiellement si quelqu'un le décidait au JO.
Mais la réponse est dans la question. Pourquoi elle n'aurait pas sa place ? Non mais, c'est-à-dire que de dire, est-ce qu'elle a sa place ? Est-ce qu'elle a sa place en France ? Non mais c'est presque... Voilà, elle a sa place. C'est une artiste, une grande artiste, qui a été encore couronnée hier soir.
À tout de suite.
RTL Matin. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,99€.
Les fraises rondes ?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, la barquette de 500 grammes est à 2,99€.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous !
Eh oui, je vous en ramène une barquette avec de la chantilly, ça vous dit ?
Toi ramène ta fraise, t'es mal embarqué.
En barquette, patron.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 5,98€ le kilo, catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Oh non, il y a encore le chien des voisins qui fait pipi chez nous. Faut faire quelque chose là.
Bah on va quand même pas clôturer tout le jardin enfin.
Et pourquoi pas ? Depuis plus de 30 ans, Brico Dépôt s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comme avec le panneau Cisco à occultation complète à 27,30€ et en stock. C'est ça un prix dépôt. Brico Dépôt. Voyez plus grand avec nos prix dépôt. Panneau de 180 cm de haut, 180 cm de large et 2,5 cm d'épaisseur. Installation facile par emboîtement, voire conditions sur bricodépôt.fr.
Carrefour. Quand vous me dites « La 1664 est moelleuse, complexe, avec des notes florales et une fine amertume », oh, je pourrais en parler pendant des heures. Eh bien, je vous réponds qu'avec 30% de remise immédiate, le pack de 28 bières blondes 1664 de 25 centilitres est à 12,88€ seulement au lieu de 18,40€. Et c'est jusqu'à lundi chez Carrefour et Carrefour Market.
Carrefour, soit 1,84€ le litre. Détail sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Quand vous avez un bris de glace, ça vous paraît compliqué à gérer ? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
RTL Matin.
Il est 7h44, Amandine, vous recevez donc ce matin notre ministre de la Culture, Rachida Dati.
Madame la ministre, vous étiez hier à la Sorbonne où Emmanuel Macron a donc défendu une Europe de la culture. Le président dit vouloir créer un pass culture européen sur le modèle du pass culture qui existe ici en France. J'ai envie de vous dire, il faut avoir les moyens de voyager pour profiter de ce pass culture.
D'abord, moi sur ce pass culture, ça a été la grande idée d'Emmanuel Macron quand il est devenu président. C'est la première fois qu'on s'intéressait à ceux qui sont soit les plus éloignés de la culture, soit ceux qui voulaient bénéficier d'activités culturelles, notamment les jeunes et ceux qui étaient les plus éloignés, qui n'ont pas forcément d'incitation à la culture, ou qui étaient dans des zones rurales, qui étaient les plus éloignés physiquement aussi de la culture. Donc ce pass culture français, qui est d'inspiration européenne, parce qu'au départ on s'était inspiré d'une idée de Matteo Renzi, et d'ailleurs, qui a au départ... qui marchait pas très bien en Italie, nous l'avons mis en place en France.
Et ça fonctionne bien, notamment pour l'achat de livres.
Et d'ailleurs, l'Italie a revu son fonctionnement en s'inspirant du modèle français. Aujourd'hui, ce pass culture, c'est quoi ? C'est d'abord la plus grosse ligne budgétaire du ministère de la Culture. C'est 250 millions d'euros sur ce pass culture. Dans ce pass culture, il y a une part collective, c'est-à-dire qui s'adresse aux écoles, au collège, c'est-à-dire que les enseignants emmènent, et des médiateurs, emmènent des enfants pour accéder à la culture. Ça marche très bien, et je vais vous dire, je suis très fière de ça. Pourquoi ? Parce que moi, je rencontre beaucoup ces classes qui bénéficient de ce pass culture sur la part collective. Quand vous les interrogez, vous leur dites, alors, qui est déjà allé, hier j'étais à Meaux, avec Jean-François Copé, on interrogeait des jeunes en disant, est-ce que vous êtes déjà allé dans un musée ? Non, c'est la première fois. Est-ce que vous êtes déjà allé au théâtre ? Non, c'est la première fois. Ce pass culture sur la part collective, que nous souhaitons avec Nicole Belloubet, le renforcer, pour ne pas dire l'élargir. Je veux l'élargir aux acteurs de l'éducation populaire qui sont totalement oubliés du ministère de la Culture.
Mais alors ça veut dire
parce
quoi ?
Parce que les acteurs de l'éducation populaire, c'est vrai que pendant longtemps on considérait qu'ils n'étaient pas dignes du ministère de la Culture. Moi je les ai reçus, je souhaite que cette part collective puisse aussi leur bénéficier. Donc la part collective...
Les acteurs de l'éducation populaire, pardon, vous
avez... MJC, centres sociaux, maisons de quartier, missions locales, les centres d'apprentis, les apprentis n'en bénéficient pas. C'est quand même, ils sont quand même concernés pour l'accès à la culture.
Donc vous souhaitez l'élargir, ça c'est la partie française.
Il y a la part individuelle. J'ai entre 13 et 18 ans, j'ai une part individuelle, j'ai un petit budget, et je peux aller au théâtre, au cinéma...
Acheter des livres.
Acheter des livres, et ça marche très bien pour l'accès à la librairie, parce que c'est pas un bon d'achat et je vais sur Amazon.
Non.
C'est, je vais acheter mon livre à la librairie. Et donc, ça, c'est cette opération de faire revenir des jeunes en librairie fonctionne aussi très bien. Ce que j'ai constaté, c'est que le pass culture tel qu'il est fait aujourd'hui, d'ailleurs, je suis en train de le revoir dans son application et dans son fonctionnement, souvent, c'est que si vous y allez, c'est que vous connaissez déjà un peu. Donc, c'est pour inciter ceux qui ne savent pas faire. C'est quoi le théâtre ? Par exemple, certains ne savent pas que la comédie française est un théâtre. Et donc, comment on éditorialise, comment on incite pour aller, notamment, accéder à cette culture la plus large et qui parfois il faut le dire aussi, qu'on veut bien réserver que à certains. Si on peut s'éviter d'avoir un autre type de public dans des grandes institutions, ça arrange certains. Moi, je voudrais qu'ils puissent y accéder. Et donc, on a changé. Exemple, moi, quand je suis arrivée, j'avais constaté que le Pôle Culture, il n'est même pas géolocalisé. C'est-à-dire que je regarde, je ne sais même pas ce qu'il y a.
Autour de chez moi.
Là, c'est récent, j'ai mis en place la géolocalisation. Vous allez sur le Pôle Culture, vous savez tout ce qui est autour de moi, de chez moi, de mon école, et même sur des spectacles un peu exceptionnels. Et donc, ce qu'on va rajouter sur ce Pôle Culture dit européen, c'est de dire, parce que vous ne pouvez pas connaître votre culture européenne, parce qu'on a une culture européenne, regardez les peintres, les artistes, la chanson, l'opéra, nous avons une culture européenne très forte. Et donc, sur le pass culture européen, là, ce que m'a demandé le président de la République, c'est de pouvoir l'élargir au niveau européen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous voulez connaître votre culture européenne, il faut pouvoir voyager. Et donc, nous souhaitons mettre des actions, des activités culturelles européennes. Je vais aller à la Scala, par exemple.
Et comment vous y serez dans le pass culture ?
Eh bien, on va l'adosser avec le passerail, qui est effectivement l'innovation, ce qu'a lancé et souhaité évidemment le président de la République, nous allons les adosser. Donc j'ai demandé au ministère de la Culture de travailler sur ce sujet, de dire, nous avons des activités culturelles au niveau européen, on l'adosse sur ce passerail, qui est un forfait, où on peut voyager.
Et ça c'est pour tous les jeunes de moins de 25 ans
Alors, c'est le pass culture aujourd'hui est jusqu'à 18 ans et vous pouvez utiliser 2 ans, si vous n'avez pas tout consommé, 2 ans après les 18 ans. Donc, je voudrais demain que le pass culture européen soit un peu sur le modèle de l'Erasmus. L'Erasmus aujourd'hui marche très bien. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus aucun jeune qui ne bénéficie pas d'Erasmus. Rappelez-vous quand ça a été lancé. Alors, on n'est pas non plus du Moyen-Âge, mais notre génération. Mais Erasmus et classe des gens, on ne pouvait pas y accéder. C'était que pour les enfants de privilégiés. Aujourd'hui, on a des dispositifs qui permettent même aux enfants défavorisés de pouvoir y accéder. Et donc là, le pass culture européen, ça va être une grande innovation. Et ça va être... Parce que franchement, l'Europe de la culture... Vous avez vu comme le continent, comme les pays sont fracturés, comment aujourd'hui on est dans le rejet de l'autre. On parlait de Aya Nakamura à l'instant. Vous avez vu ce que ça a déclenché. Ça a déclenché pour elle, comme moi quand j'étais nommée ministre de la Culture. Ce que ça a déclenché.
C'est la Rachida Dati de la chanson.
Pas du tout, c'est pas ça. C'est que il y a des personnes en France qu'aujourd'hui on n'accepte pas encore dans certains milieux. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que Aya Nakamura doit encore faire ses preuves comme artiste ? Vous dites vous-même, est-ce qu'elle a sa place ?
Je vous pose la question parce que beaucoup la posent.
N'ayez pas peur, je vous mets pas. Je dis que cette question qui a été posée, est-ce que j'ai ma place comme ministre de la Culture ? Je n'ai pas fait mes preuves. Donc à un moment donné, il faut accepter. Moi, je pense que par la culture, c'est aussi, ça n'est même plus de l'intégration, ça n'est même plus de l'inclusion. C'est une politique d'acceptation. Voilà.
Rachida Dati, je voudrais qu'on parle des livres avec cette taxe qui a été envisagée, taxe sur les livres d'occasion. C'est le président de la République qui en a parlé, l'idée d'une taxe de 3%.
Il n'a jamais parlé de 3%, il n'a jamais parlé de taxe. Mais bon, allez-y.
Alors, pas de taxe, il n'y en aura pas ? Il n'y aura pas de taxe sur les livres d'occasion ?
Non, c'est pas binaire. Aujourd'hui, un livre sur 5 est acheté d'occasion. Souvent, le livre est à peine... paru, qu'il est déjà vendu dans l'occasion. Donc ça impacte qui ? Vous savez, moi j'ai été parlementaire européen, j'ai défendu les auteurs et le droit d'auteur. C'est une exception, entre guillemets, culturelle française que je souhaite défendre. D'ailleurs, j'ai été très claire sur l'intelligence artificielle qui impacte les auteurs. Et ça, je suis très claire.
Donc, mais est-ce qu'il y aura une taxe ou pas ?
Sur la défense des auteurs. Je vous dis, aujourd'hui, il y a le sujet de la rémunération des auteurs, mais moi, il y a un secteur que je voudrais préserver. Parce qu'aujourd'hui, le livre d'occasion, il sert à quoi ? Il sert souvent à des étudiants, des familles défavorisées. Souvent, je disais ça tout à l'heure, vous avez par exemple, moi je connais une association de femmes qui veulent se reconvertir, notamment professionnellement. Elles achètent des livres d'occasion pour se former.
Et justement, si on augmente le prix de ces livres, elles n'iront plus accès.
Ce secteur de l'économie solidaire, je veux le préserver. Simplement, il faut pouvoir quand même rémunérer les auteurs, parce que si on rémunère mal les auteurs, on aura moins de livres, pour ne pas dire pas de livres, et je veux préserver ce secteur.
Donc taxer les plateformes, par exemple ?
On pourrait les taxer, mais elles vont faire quoi ?
Répercuter le prix.
Voilà. Donc aujourd'hui, et puis si vous voulez taxer les plateformes, ça va être à une échelle européenne. Et si vous allez à un niveau européen, qu'est-ce qu'on percute ? On va percuter le cadre européen. Le cadre européen aujourd'hui, il concerne qui ? Eh ben les auteurs et les droits d'auteur. Et je sais que les éditeurs et les auteurs ne souhaitent pas qu'on rouvre ce débat qui aujourd'hui préserve les droits d'auteur. Donc aujourd'hui, je suis en train de réfléchir. J'ai trouvé à peu près un petit dispositif qui permettrait de révolutionner revaloriser la rémunération des auteurs sans toucher à ce secteur, j'allais dire, que je peux qualifier d'économie solidaire. Moi, je ne veux pas, pour toute une population qui accède à la lecture par le livre d'occasion, qui accède au rêve et à l'imagination par ce livre d'occasion, qu'il puisse être percuté.
Rachida Dati, j'ai encore deux petites questions. Cette une d'abord de Libération, cette semaine, j'imagine, vous l'avez vu, le journal qui évoque votre mise en examen dans l'affaire Renault et qui assure que vous auriez travaillé pour un autre grand groupe, Orange. Vous auriez, et je cite Libération, touché plus de 800 000 euros comme avocate d'Orange alors que vous étiez députée européenne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez travaillé pour Orange?
Alors, Madame Bégaud, d'abord, vous n'êtes pas procureure de la République.
Non, mais je vous pose la question parce que vous n'y avez pas répondu et qu'il y a
ces
informations.
Depuis plus jeune âge, je travaille. J'ai toujours travaillé. Moi, je considère que la politique, c'est une mission. C'est pas un métier. Moi, j'ai un métier. J'ai été magistrat. C'est comme ça que j'ai pu devenir avocate. Donc, je suis avocate. C'est autorisé par la loi. Vous pouvez être parlementaire, élu et être avocate. Et donc, mes contrats, parce que, évidemment, ils ne citent pas, c'est sûr, plus d'une dizaine d'années. J'ai eu des contrats qui sont légaux et qui sont évidemment reconnus. Je suis avocate. Vous recevez très régulièrement ici des avocats qui sont élus. Vous avez dû, j'ai bien connu Robert Badinter, est-ce que vous lui avez posé des questions sur ses clients? Vous avez reçu Arnaud Montebourg, est-ce que vous lui avez posé des questions sur ses clients? Vous avez reçu François Baroin, est-ce que vous lui avez posé des questions sur les clients? Pourquoi moi? Et je vais vous dire, ce journal, contre lequel, ça fait déjà, nous en sommes à la troisième plainte, mais ça n'est pas très grave, est-ce que ce journal qui est subventionné par la mairie de Paris, qui s'attaque à Rachida Dati, est-ce que c'est déontologique? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts? Et donc, que la mairie de Paris se serve de ce journal, puisque le journaliste est un ami de Madame Hidalgo, pour pouvoir m'attaquer sur quelque chose de légal. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je n'ai pas le droit de travailler? Est-ce que je n'ai pas le droit d'être avocate? Est-ce que moi, je ne vis pas, contrairement à la maire de Paris, je ne vis pas sur l'argent public. Elle se paye ses vêtements, son coiffeur, ses voyages. Moi, je n'utilise pas les deniers publics. C'est pour ça que je veux avoir un métier à côté qui me permet d'être indépendante. Parce que si je ne l'étais pas, je pense que j'aurais disparu de la scène publique. Parce que ça n'est pas la première fois qu'on essaye, évidemment, de s'attaquer à moi.
Donc, mais rien à vous reprocher, mais c'est normal que je vous pose la question ce matin.
Vous poserez à Madame Hidalgo comment vit-elle, comment elle se paye son train de vie, ça serait intéressant. Mais vous poserez aussi aux élus qui sont avocats, que vous recevez dans votre émission, demandez-leur s'ils ont des clients et s'ils ont des contrats sur plusieurs années. Voilà, c'est la question. Si vous voulez être en termes d'égalité, vous pouvez poser la question, les mêmes questions aux autres.
Merci beaucoup, Rachida Dati.
Vous restez avec nous, Rachida Dati, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière, dans un instant.
RTL.
Mais U, peut-on trouver 4 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine?
Ici, dans les magasins U, il y a plein de fraises à prix coûtant. Et à seulement 2,69€ la barquette. Ah, j'ai couru pour pas rater ça.
Ouh. Retrouvez chaque semaine 4 fruits et légumes à prix coûtant. Du 25 au 27 avril dans vos magasins U, les fraises rondes à prix coûtant sont à seulement 2,69€ la barquette de 500 grammes, soit 5,38€ le kilo. U, commerçant autrement.
Catégorie 1, origine France, par modalité et magasin participant sur magasin-u.com.
Tic-tac, 4 jours exceptionnels vous attendent chez Ixina. Durant ces portes ouvertes, Ixina vous offre non pas 150, mais 200€ par tranche de 1000€ sur votre cuisine équipée. Pour en profiter, rendez-vous en magasin avant le 28 avril. Ixina, oui à vos rêves. Voir conditions sur ixina.fr.
Il y a une Opel pour chaque. Chaque. Et chaque. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
Cher Philippe, la ministre de la Culture, Rachida Dati, est donc restée pour votre chronique.
Sinon, ça va saigner, est-ce que tu pises Arlène, 3, 2, 3, 4, 0, 6, on va te péter.
Vous avez tous reconnu Georges Brassens.
Bien sûr, oui, bien sûr.
Il nous manque tellement, tué par un gorille.
Mais gare au gorille.
Vous avez mis en garde de faire gare au gorille. Bonjour Rachida. Ben non, bien sûr, c'est Booba, le rappeur Booba, bien sûr. Car vous êtes un peu la Booba du 7e arrondissement, la punchlineuse du gouvernement, la Kangy Girac des ministres, vous flinguez dans tous les sens, en visant mieux tout au fond. Vous êtes la star des médias, une reine des punchlines, intelligente, drôle, élégante. J'ai envie de vous qualifier de Philippe Cavrivière au féminin.
Oh, voyons.
C'est flatteur.
Oh, merci. En tout cas, depuis votre arrivée à la culture, on peut le dire, vous avez mis un sacré coup de Louboutin dans la fourmilière. Combien votre poiture, Amandine? 42. 42. Non, mais on sait jamais. J'ai cité la marque. Peut-être ils vont envoyer une petite paire. 39.
Oui.
D'accord. Alors, c'est vrai qu'une femme plutôt à droite, dans un milieu plutôt à gauche. C'est disruptif. Ça aurait été plus confort de mettre Corinne Maziero. Alors, vous en parliez, il y a eu parfois un certain racisme social dans les réactions autour de votre nomination. On a entendu des Gabriel Attal dort 3 heures par nuit, Rachida va dormir 2 heures par spectacle. C'est excellent. Bon, on s'est tous emmerdés.
Ça peut arriver.
On s'est tous emmerdés à des spectacles. Oui. Et vous savez, il y en a qui l'ont mal digéré. Même autour de cette table, il y en a qui n'arrivent pas à se mettre dans la tête que vous êtes à la culture.
Vous recevez Rachida Dati, la garde des Sceaux.
Voilà, ça c'était à cette table.
Mais oui,
mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas.
Coming back en un.
Il n'arrive pas à se faire à l'idée. Il n'arrive pas à se faire à l'idée.
Allez-y. Bon, écoutez, les Républicains n'ont pas vraiment apprécié le retour de Rachida au gouvernement, vous avez remarqué ?
Oui, car Rachida, vous étiez la prise de guerre de Macron au Mercato. Étrangement, Emmanuel ne s'est pas jeté sur Olivier Marleix.
Non.
Ni Nadine Morano.
Non plus. Voilà.
Oh, comme c'est bizarre.
Bah, oui, je sais pas, c'est bizarre. Oui, bah, peut-être. Non. Perdu le 06 de Nadine, on ne sait pas. Bon, en même temps, c'est vrai que vous étiez unis par les liens sacrés du parti. Puis Éric Ciotti, ben, voilà, c'est comme Vincent Cassel, Brad Pitt, François Civil. C'est des gars, ils n'ont pas l'habitude qu'on les quitte. Ils n'ont pas l'habitude qu'une femme se barre comme ça. Bon, il faut se mettre à la place d'Éric. Il voit sa préférée déménager dans un hôtel particulier de la rue de Valois.
Oui.
Où on n'a toujours pas été invité. Bon, Éric, il n'allait pas dire « Bon, Rachida, tu t'en vas ?» Je vais t'aider à porter tes valises. Il y en a combien ? 134, hein, oui. Et 200 mâles, oui, c'est quand même, il y en a un paquet. Voilà. Et puis l'analogie fonctionne moyennement parce qu'Éric Ciotti ne peut pas porter des très grosses valises. Non, mais une petite trousse de toilette, un vanity case à la rigueur pour rendre service. Alors, j'évoquais.
On n'en doute pas.
J'évoquais.